RFI, 6h44 en temps universel. Ce sont des manœuvres qui inquiètent et dont RFI vous a parlé cette semaine, celle de la Chine qui a mené de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan. Elle s'est aussi livrée il y a une semaine à des exercices de tir réel au large de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et nous sommes ce matin au Japon, car à l'est, en mer de Chine orientale, la situation s'est également beaucoup dégradée ces dernières années en raison des provocations militaires à répétition de Pékin. À Okinawa, dans l'extrême sud du Japon, l'armée est mobilisée et l'inquiétude des habitants grandis. Reportage Bruno Duval.
L'an dernier, des navires des gardes-côtes chinois lourdement armés ont pénétré à 39 reprises dans les eaux territoriales japonaises pour s'approcher des Senkaku, des îlots nippons que Pékin revendique. Et pendant 355 jours, ils ont harcelé les chalutiers japonais qui pêchaient aux alentours, leur ordonnant de quitter immédiatement, je cite, « le territoire chinois ». Au-delà, des navires de guerre chinois ont croisé en mer de Chine orientale à 68 reprises en 2024, c'est beaucoup plus que les années précédentes. Un avion de reconnaissance chinois a violé l'espace aérien japonais, du jamais vu, et dans la région, les exercices de l'armée de l'air chinoise se sont succédés, incluant parfois des bombardiers. Dans les rues de Naha, la capitale d'Okinawa, l'inquiétude est palpable.
Un missile tiré à Pékin met moins de 10 minutes pour arriver ici. Le moment venu, on n'aura pas le temps de se mettre à l'abri.
Il n'y a pas le moindre abri antimissile près de chez moi, donc je n'aurai pas le choix. Je resterai à la maison, je me recroquevillerai sous la table du salon et prierai.
En ce moment, je ne regarde plus les journaux télévisés. Ils sont trop stressants.
Désormais, en mer de Chine orientale, bon nombre d'îles japonaises sont hérissées de batteries de défense antimissile. Dans plusieurs bases militaires, des missiles balistiques de longue portée sont entreposés et les garnisons stationnées dans la région ont vu leurs effectifs considérablement augmenter. Mais cette mobilisation militaire ne fait pas l'unanimité. Certains jugent qu'elle fait courir des risques aux habitants.
Ces bases militaires censées nous protéger, en fait, elles nous mettent en danger car si la guerre éclate, les localités où elles sont implantées seront la cible numéro une de l'ennemi. Rien que cette idée me fait frémir.
On le voit en Ukraine depuis 3 ans. Les missiles russes s'abattent en priorité sur les villes où se trouvent des garnisons ou des dépôts de munitions. Ce sont des abris souterrains qu'il nous faudrait pour être bien protégés, pas des bases militaires.
Comment l'armée prend-elle ces critiques? La réponse du major général Nakashima, le numéro 2 de la zone de défense du sud-ouest.
Notre devoir, c'est de protéger l'ensemble de notre territoire et d'assurer la sécurité de tous les Japonais. Mais dans notre pays, le sentiment antimilitariste n'est pas marginal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous en prenons acte avec humilité et allons donc poursuivre notre travail de persuasion et de conviction afin d'obtenir la compréhension et la coopération de la population.
L'enjeu est aussi de rassurer. À en croire les sondages, 8 Japonais sur 10 jugent que l'environnement sécuritaire de la région s'est dégradé ces dernières années. Et plus d'un sur deux se dit persuadé qu'un jour ou l'autre, la Chine finira par attaquer Taïwan, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres de plusieurs îles japonaises. Bruno Duval, de retour d'Okinawa, RFI.
Reportage au Japon à retrouver sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Une quinzaine de dirigeants, des Européens, mais aussi le Canadien Trudeau, à Londres aujourd'hui autour de Volodymyr Zelensky, après avoir été violemment pris à partie et menacé d'abandon par Donald Trump. Vendredi, à la Maison-Blanche, le président ukrainien est arrivé hier dans la capitale britannique, chaleureusement accueilli pour changer par le Premier ministre Keir Starmer. Les alliés de l'Ukraine resserrent les rangs. Kiev et Londres ont signé hier un accord de prêt de plus de 2,8 milliards de dollars. Il accuse Israël de vouloir se soustraire aux accords qu'il a signés. Le Hamas exige ce matin l'application du calendrier de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de la deuxième phase. La première phase se terminait hier et faute d'un accord sur la suite, le bureau du Premier ministre israélien s'est dit ouvert à l'idée de la prolonger jusqu'à la mi-avril. Une proposition émise par l'émissaire de Donald Trump dans la région qui retarderait la principale mesure attendue par le Hamas dans la deuxième phase, le retrait total de l'armée israélienne et la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Et puis un week-end en or pour les amoureux de cinéma. Après les Césars en France avant-hier, le FESPACO hier soir et l'étalon d'or remis pour la première fois en 28 ans à un Burkinabé, Dany Kouyaté, pour Katanga, la danse des scorpions dans un palais des sports archi-comble à Ouagadougou. La fête se poursuit ce soir aux États-Unis avec les Oscars. Et elle nous présente ses têtes d'affiche comme chaque dimanche sur RFI, les parcours de celles et ceux qui innovent et entreprennent sur le continent africain. Denise Epoté de TV5 Monde est au téléphone de Simon Bourtembourg.
Vos têtes d'affiche, Denise Epoté. Bonjour Denise. Bonjour Simon.
Et ce dimanche, votre première tête d'affiche est originaire du Maroc. Leïla Kéré a obtenu un doctorat en physique appliquée à l'université de Besançon en France. En 2022, elle a fondé Aken Medical, une start-up qui développe une nouvelle génération de radiothérapie pour un traitement ciblé du cancer.
C'est en intégrant un laboratoire après son cursus académique que Leïla Kéré a ressenti le besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Convaincue que la technologie peut garantir des changements positifs, concrets et durables dans la lutte contre le cancer. La technologie d'Aken Medical est basée sur l'utilisation de nanosphères émettant des particules alpha. Elle brise le double brin de l'ADN et tue les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines environnantes grâce à leur grande énergie et à leur courte distance d'action. À travers ses produits, Aken Medical propose une approche singulière d'une radiothérapie efficace et personnalisée pour les tumeurs solides, tout en réduisant les effets indésirables. Associée à la théranostique, l'approche permet le suivi de l'effet de la thérapie en temps réel. Cette innovation vise à améliorer la qualité de vie des patients, une offre qui assure efficacité et moins de toxicité comparée aux méthodes actuelles. Pour le développement de sa start-up, Leïla Kéré a bénéficié du concours d'experts au sein de Paris Biotech Santé, la collaboration avec le CNRS, l'INSERM de Montpellier et le CEA Saclay a permis d'effectuer les premiers tests de la phase préclinique. Les résultats préliminaires sont très prometteurs. La start-up prépare sa première levée de fonds avec le concours d'OncoStart.
Et pour votre seconde tête d'affiche, Denise, on reste au Maroc. Vous nous parlez d'un ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Son nom, Keilani Hassine, il a fondé Istia, une start-up pour lutter contre la pollution de l'air. Un sujet de santé publique, Denise, puisque la pollution de l'air cause plus de 8 800 000 morts prématurées chaque année.
L'idée de créer Istia est née de l'engagement de Keilani Hassine au sein d'associations écologiques. En pleine crise sanitaire, la start-up s'est fixée comme objectif de contribuer à lutter contre le Covid-19 en proposant des solutions pour mesurer et prédire la qualité de l'air tout en sensibilisant la population à cette question. Des capteurs de CO2 ont été installés dans les écoles et les établissements publics. Ces capteurs brevetés mesurent la qualité de l'air intérieur grâce à des données qui s'affichent. L'intelligence artificielle permet d'optimiser les systèmes de ventilation, de prédire les épisodes de pollution et d'indiquer un indice virus. Le succès ne s'est pas fait attendre. Avec le soutien de la région Île-de-France, Keilani Hassine a participé en 2022 au CES de Las Vegas, le plus grand rendez-vous mondial de la tech. Istia était l'unique start-up à proposer des solutions pour lutter contre la pollution de l'air et limiter la propagation des virus. Lors des JO de Paris, Keilani Hassine a participé à la conception du village des athlètes.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté, merci beaucoup et bonne journée.
Denise Epoté sur RFI avec Simon Bourtembourg. Et en ce début de Ramadan, dans notre reportage Afrique, cap ce matin sur la Tunisie, avec une exposition à voir jusqu'au 30 avril à la Bibliothèque Nationale de Tunis, née d'un projet de recherche de 4 universitaires européens sur l'influence du Coran en Europe depuis le Moyen-Âge. Le Coran vu d'ailleurs, c'est le nom de cette expo qui expose plusieurs manuscrits du 12e et 12e siècle issus des fonds de la Bibliothèque Nationale et du musée de Kairouan, la ville sainte au centre du pays. Aux côtés d'autres textes trouvés en Europe, il montre le dialogue entre les cultures à travers les siècles, Lilia Blaise.
À la Bibliothèque nationale de Tunis, où un silence studieux règne entre les salles de lecture, remplies d'étudiants, une psalmodie du Coran résonne dans des pièces tamisées. Il faut s'approcher de près des vitrines pour distinguer les trésors qu'elles contiennent. Des manuscrits du texte saint datant pour certains de 10 siècles. Khaled Kshir est directeur de la Bibliothèque nationale.
Là, vous avez deux manuscrits qui sont réalisés par une famille de copistes et dans les mineurs d'Andalousie, qui sont les Benoratus, et qui ont réalisé ces merveilles, qui sont sur parchemin, avec des enluminures, malheureusement, on ne peut pas tout montrer.
Dans une autre vitrine, un feuillet sur parchemin du premier Coran réalisé à Kairouan, est copié par une femme.
Enfin, une ancienne esclave. Et elle appelle, c'est très fin comme formule, que celui qui lit ce Coran m'envoie des prières.
D'autres ne sont présentés qu'en facsimilé. Ce sont ceux qui ont été pillés lors du sac de Tunis en 1535 par Charles Quint, une catastrophe, comme l'appelle Khaled Kshir, mais qui a eu des conséquences inattendues en Europe.
Mais la catastrophe a donné lieu à la découverte, la curiosité.
C'est cette curiosité et cette influence que quatre chercheurs ont étudiés à travers les Corans, retrouvés dans plusieurs bibliothèques d'Europe, comme l'explique Katia Boissevin, la directrice de l'Institut de recherche du Maghreb contemporain, qui a participé à l'exposition, avec l'Institut national du patrimoine en Tunisie.
Traduire le Coran au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle était prioritairement une manière de connaître l'autre, mais à travers cet effort, il s'est trouvé que des amitiés sont nées, que des fascinations se sont développées et que ce jeu de rejet, admiration, fascination a toujours existé entre le christianisme et l'islam.
L'exposition itinérante s'adapte aux villes où elle est montrée, avec à chaque fois de nouvelles trouvailles, selon les fonds. Après Vienne et Tunis, elle passera par Nantes, puis Grenade, les quatre principaux centres de recherche des universitaires. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Notre reportage Afrique en Tunisie et l'exposition Le Coran vu d'ailleurs, à voir jusqu'au 30 avril à Tunis. Bientôt 7h en temps universel sur RFI, l'info continue avec le journal dans moins de 5 minutes. D'abord, comme chaque dimanche, une parenthèse avec 100% création à la rencontre aujourd'hui de Vanessa Gia, artiste, photographe et designer. Son univers à la croisée des cultures africaines et de la mode contemporaine, sa marque Rovodoa produit des vêtements en série limitée ou des pièces uniques, souvent en collaboration avec des artisans du continent, Maria Afonso.
C'est un métier où on est souvent seul, même si on est souvent entouré. En tant qu'artiste, on crée en permanence, c'est reconnecter aussi avec soi et pouvoir le présenter aux autres. C'est tout un univers qui m'équilibre en tout.
Vanessa Dia, designer et fondatrice de Rovodoa.
Rovodoa, ancien bateau négrier qui transportait des esclaves pour travailler dans les Amériques. Ça m'avait beaucoup interpellée.
Vanessa Dia est née à Dakar. Elle a grandi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun avant de s'installer en France. Sa passion pour la mode est profondément enracinée dans son héritage culturel et son engagement envers l'artisanat africain. Après des études en photographie et en école de commerce, cette designer cosmopolite crée sa marque Rovodoa en 2015 en hommage à ses ancêtres. Passionnée par le textile africain, Vanessa Dia crée des pièces uniques qui allie tradition et modernité, tout en restant dans les codes de la mode.
Il faut ramener cette touche africaine à cette tendance mondiale, parce qu'on ne va pas nager à contre-courant non plus. Sur place, tu vois les textiles, ça t'inspire. Quand tu parles de tes projets, il y a des gens qui sont férus justement de l'artisanat original de certains pays que tu ne connais pas toi-même, qui te prennent la main, qui te disent « Dans mon village, il y a tel textile qu'on utilise pour certaines cérémonies, tellement rigide que je suis pas sûre qu'on puisse en faire un vêtement moderne, mais toi avec ta créativité, si je t'amène là-bas, je pense que tu peux créer la magie. »
L'engagement pour l'artisanat et son souhait de valoriser les textiles africains sont au cœur du travail de Vanessa Dia.
Le seul atelier avec lequel j'ai commencé depuis le début, c'est l'atelier des femmes au Cameroun, quand j'ai ouvert mon atelier personnel. L'intérêt pour elles, c'était qu'après, si elles avaient des projets personnels, elles puissent utiliser mes machines. C'est mon projet de cœur. Par contre, je fais des pantalons à pinces, donc là, il faut des maîtres tailleurs. Il a fallu les trouver. Donc, en Côte d'Ivoire, on m'a ramené chez un maître tailleur qui a formé aussi. Donc, lui, il se charge de dispatcher mes commandes chez ses petits, comme on dit. Je peux compter sur eux. Et en général, c'est avec les mêmes hommes qu'on travaille sur Abidjan et les mêmes femmes au Cameroun.
Retrouvez l'univers de Rovodoa sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création. Et bientôt 7h en temps universel. L'info continue dans une minute sur la radio du monde. À tout de suite.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Dans la vallée du Nil, bien avant l'apparition des trois religions monothéistes, l'excision se pratique. Appelée encore circoncision pharaonique, elle se diffuse et concerne dans beaucoup de pays africains plus de 90% des femmes. Sophie Bessis nous raconte l'histoire très ancienne de l'excision en historienne et en féministe.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
L'atelier des médias. Steven Jambeau.
Ça va vite, très vite, en matière d'intelligence artificielle dans les médias. Pour faire un état des lieux et un peu de prospective, je reçois un journaliste et consultant français de retour d'un voyage d'études dans la Silicon Valley. Voyage dont il nous propose un résumé en 10 points. Aurélien Viers est mon invité tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias, déjà disponible en podcast.